Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, avec notre invité cette semaine, plus de 60 ans de recherche sur nos sociétés nous contemplent. C'est peu de dire que son œuvre est riche, diverse, multiple, plus de 60 livres et je ne compte pas ses articles dans le journal Le Monde notamment et d'autres publications éphémères. Je vous propose une rencontre avec Edgar Morin, un intellectuel comme la France les aime, à la fois chercheur et homme engagé, bretteur. Nous sommes allés voir au cœur de Paris celui que l'on appelle aussi l'homme de la pensée complexe car il a aimé confondre les disciplines afin de comprendre les multiples aspects d'une situation. À l'occasion de l'apparition de ses mémoires, on hésite d'ailleurs à utiliser ce terme car Edgar Morin s'est déjà beaucoup raconté dans d'autres livres autobiographiques, à l'occasion en tout cas de la publication de son dernier livre en date, « Les souvenirs viennent à ma rencontre », publié chez Fayard. Vous allez découvrir ou redécouvrir cet homme à la grande curiosité qui a toujours aimé analyser son époque sous toutes ses facettes. Partons donc à la rencontre d'Edgar Morin. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver dans cette émission Idée. La dernière fois, c'était chez vous, dans votre bureau, en 2011, oui. Pour parler de la voix, oui. Qui est une réflexion que vous menez toujours sur la société contemporaine. Et cette réflexion continue toujours, toujours, comme depuis le début, comme depuis, je ne sais pas moi, 1951, quand vous êtes rentré au CNRS.
Tout à fait. Peut-être même avant déjà, mais enfin, elle avait pris d'autres formes.
Dans ce livre de souvenirs, les souvenirs viennent à ma rencontre, on rencontre précisément beaucoup, beaucoup de personnes connues ou pas. Votre vie a été une vie de recherche et également une vie de rencontre.
Tout à fait. Et ces rencontres sont liées à la succession d'événements historiques qui ont jalonné mon existence. Et elles sont extrêmement diverses. Mais surtout, je tenais à rappeler principalement les personnes qui m'ont impressionné, qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup admiré, et dont certaines sont aujourd'hui complètement ignorées, comme certains héros de la Résistance, par exemple.
Dans la préface d'une anthologie de vos œuvres publiée chez Bouquin récemment, Edgar Morin, Pascal Horry, qui signe la préface de cet ouvrage, vous qualifie de « grand indiscipliné ». Ça vous convient comme définition, « grand indiscipliné » ?
C'est pas mal, parce que, disons, d'un côté, ma façon de regarder, de connaître, ne correspond pas aux disciplines bien instituées. Et, disons, ma façon de penser est transdisciplinaire, donc je crois que je suis indiscipliné. Et d'autre part, je résiste aussi bien à des croyances collectives qui semblent très fortes à certains moments, et je n'obéis pas à ce qui semble devoir être fait, du moins par rapport à la majorité ou à l'institution. Et disons, je trouve que c'est un mot pas mal, parce que bon, il y a des époques où je suis rebelle, comme sous l'occupation. Je suis par ailleurs parfois révolté par un certain nombre d'événements, mais j'accepte cet adjectif parce qu'il maintient la continuité de ma façon d'être.
C'est-à-dire qu'il est difficile de vous qualifier, Edgar Morin, sociologue, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi dans votre travail de l'anthropologie, il y a également de la philosophie, par exemple.
Exactement. Et c'est peut-être parfois, quand je me qualifie d'humanologue, pour reprendre un mot inventé par mon ami Dortier qui dirige la revue Sciences Humaines, pour dire dans le fond ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'humain. C'est pas seulement la question qu'est-ce que c'est qu'être humain, mais c'est le destin de l'espèce humaine qui aujourd'hui, du reste, devient la préoccupation centrale de ma personne. C'est-à-dire aujourd'hui que dans le cours de la mondialisation actuelle, avec tous les périls et tous les problèmes et toutes les promesses, tout ce micmac extraordinaire, ce chaos, cette mutation que nous vivons, aujourd'hui c'est devenu l'objet central. Mais je me suis toujours intéressé aux problèmes de l'humain.
Alors essayons de faire de la psychanalyse, de la psychologie. Est-ce que cette curiosité, cette grande curiosité que vous avez, cette soif de vivre aussi, les deux sont liés? Parce que votre livre, Les souvenirs viennent à ma rencontre, c'est aussi un livre où la vie transparaît, la vie, les femmes, les rencontres, etc. Est-ce que cette curiosité vient de votre naissance difficile que vous racontez très bien dans votre livre?
Il est possible que le fait, puisque ma mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants que moi, et que dès mes premières années où j'ai pu lire, enfant solitaire, la lecture a été une nourriture indispensable de ma vie, évidemment en littérature enfantine de l'époque, mais ça n'a pas cessé, si vous voulez. Et je pense que la littérature, comme ensuite le cinéma, qui peuvent être considérés comme des façons de fuir la réalité du monde dans l'imaginaire, mais sont aussi des moyens de nous faire connaître le monde. Pour moi, par exemple, à travers Tolstoï, Dostoïevski, Balzac, Dickens, Les Misérables de Victor Hugo, j'ai pu aussi entrer dans le monde. Et si vous voulez, comme ma famille ne m'a transmis aucune norme culturelle, aucune vérité absolue, même aucune vérité tout court, moi-même, j'étais curieux dans une époque tellement tourmentée que fut celle de l'avant-guerre, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, avec une crise économique énorme, avec le stalinisme, avec la menace nazie. Tous ces problèmes-là m'envahissaient et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Et donc, si vous voulez, on peut dire que l'histoire dans laquelle j'étais immergé a elle-même alimenté cette curiosité. Et puis, je dois dire aussi que après une adolescence où j'étais assez solitaire, jusqu'à l'âge à peu près de 19 ans, j'avais un besoin d'effusion, de communauté et d'amour. Et il s'est trouvé que le désastre de juin 1940, tout s'effondre, l'armée française, font que moi qui prépare mes examens à Paris, à la Sorbonne, quand j'entends la radio que tous les examens sont suspendus parce que l'armée arrive, je prends le dernier train pour Toulouse. Et là, à Toulouse, je trouve d'autres étudiants réfugiés venus de tous les coins de France. Et ça me permet de trouver une fraternité, de m'occuper moi-même des étudiants réfugiés pour les loger et pour les accueillir, et des rencontres très profondes dans l'amitié et aux amoureuses. Donc, si vous voulez, un besoin d'amour et de communauté a pu commencer à s'exprimer à cette époque.
On a l'impression, Edgar Morin, que cette période de la résistance, cette Deuxième Guerre mondiale, a été pour vous une autre naissance, justement. Vous écrivez dans vos mémoires, enfin dans ce livre de souvenirs plus exactement, « J'avais souvent peur, au moment de la résistance, hein, j'avais souvent peur, mais je vivais pleinement. »
Oui, parce que effectivement, le fait de se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire de faire une chose que l'on juge bonne, bonne pour soi et bonne pour tous les autres. Le fait de me sentir impliqué dans quelque chose qui emportait les meilleurs de la nation française dans la résistance, mais qui ensuite, qui était une lutte mondiale où toute la jeunesse du monde se trouvait emportée dans une guerre meurtrière. Le fait de me sentir en communauté, surtout que à ce moment-là, je me suis converti au communisme, et c'est-à-dire j'avais l'impression que, dans le fond, je luttais pas seulement pour la libération de la patrie, mais aussi pour toute l'humanité, pour l'émancipation de l'humanité. Donc tout ça donnait un sentiment de plénitude qui était plus important que, évidemment, le sentiment des risques que je courais.
Alors parlons du Parti communiste. Vous avez parlé du PC à l'instant. C'est une période extrêmement importante dans votre vie. Elle va durer 10 ans, 1941-1951, donc une décennie. Une décennie qui commence dans l'exaltation. C'est 1941, c'est l'URSS résistant à Hitler, Stalingrad, etc. etc. Ça commence comme ça, dans l'exaltation.
Écoutez, ça commence parce que j'avais toute une culture qui connaissait très bien les aspects les plus nocifs et les plus pervers du stalinisme. Et j'ai dû refouler cela de mon esprit en me donnant d'abord des raisons pour penser que tous les défauts de l'Union soviétique seraient du passé parce qu'ils relevaient de l'encerclement capitaliste ou de l'aération tsariste et que le futur épanouirait une civilisation digne de ce mot communisme qui signifie une fraternité universelle. Donc, si vous voulez, j'ai fait un travail de conversion pour pouvoir être... Et alors, c'est évident que Stalingrad, dans le fond, semblait justifier, ou du moins faire totalement oublier un passé qui était pervers. Donc, j'ai eu une période d'exaltation mais qui commence à se tarir très rapidement, puisque dès l'après-guerre arrive ce qu'on appelle le jdanovisme culturel, c'est-à-dire venant de l'Union soviétique et se répercutant sur les partis communistes, dont le parti français, des consignes pour dénoncer des écrivains comme Sartre, Camus et autres, et exalter un pseudo-réalisme socialisme. Et c'est là que commence une première révolte qui va continuer avec les procès et qui va finalement faire de moi et opérer la rupture intérieure qui a précédé dès 1949 la rupture extérieure.
Avec ce fameux procès de Kravchenko que certains intellectuels n'ont pas voulu prendre à sa juste mesure.
Voilà, exactement.
Et cette période de divorce avec le Parti communiste a été très douloureuse pour vous.
Elle a été d'abord très libératrice, parce que le lendemain de mon exclusion, qui m'avait été très douloureuse, je me sentis libre enfin. Mais il est évident que certains de mes amis proches ont rompu avec moi. Qu'à l'époque, celui qui était rejeté par le Parti communiste était exactement comme un chrétien excommunié ou un juif éliminé par la synagogue, par le RM. On est maudit. Et même auprès de beaucoup de gens qui ne sont même pas communistes, mais qui sont des compagnons de route ou des amis, on porte une tare, une sorte de lèpre. Et pendant quelques années, effectivement, j'ai porté non pas une étoile jaune, mais une étoile de malédiction sur moi-même.
Une dernière chose à propos de ce Parti communiste, Edgar Morin. On s'aperçoit, une nouvelle fois en lisant votre livre, la puissance qu'a eu le Parti communiste dans le milieu intellectuel en France à l'époque.
Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, c'est comment des hommes admirables, et notamment admirables dans la résistance, et je parle de Pierre Hervé, je parle de Sécarège, de Courtade, enfin des gens qui ont été même des dirigeants, des grands dirigeants de la résistance, se sont laissés abêtir, asservir, je dirais même crétiniser par le parti. Et j'ai voulu consacrer un chapitre qui s'appelle « Le broyage des consciences » pour montrer comment le parti peut transformer un homme qui a des qualités extraordinaires en un être vraiment banal, un être qui dit des inepties et des calomnies. Donc, si vous voulez, pour moi, je veux dire que c'est une expérience, disons, analogue que si j'avais été, par exemple, dans la curie romaine, que j'avais vécu de l'intérieur de l'Église. Là, j'ai vécu de l'intérieur une sorte d'église. Quand on allait dans cet immeuble sacré qui était l'immeuble de la direction communiste, on se sentait vraiment comme infidèle. Et quand je rencontrais le responsable qui me disait « le parti te demande », c'est-à-dire c'est toujours cette instance quasi divine, le parti. Et donc, l'expérience humaine que j'ai vécue, comment le parti peut transformer des gens. Un brave type se transforme en sanguinaire, et puis une fois qu'il s'en va, qu'il est exclu, il redevient un brave type. C'est ça, cette expérience humaine que j'ai vécue, qui m'a guéri d'ailleurs de tout sectarisme, de toute volonté d'abaisser qui que ce soit. Cette expérience, je crois qu'elle est inoubliable, et dans le fond, aujourd'hui, on ne peut plus faire une telle expérience.
Et est-ce que le CNRS a été à ce moment-là, parce que c'est quasiment à la même époque, votre départ du Parti communiste et votre entrée au CNRS a été une bouée de sauvetage, en quelque sorte?
Mais écoutez, c'est vrai que c'est une coïncidence, parce que c'est quelques mois après mon entrée au CNRS que je suis victime de cette exclusion, et que, dans le fond, cette année 50-51, c'est le grand tournant de ma vie, qui est extrêmement important, d'autant plus que j'ai eu le temps, étant chômeur intellectuel après avoir été rejeté du parti, j'ai eu le temps de préparer mon premier livre important qui s'appelle « L'homme et la mort ». Donc c'est une époque tout à fait importante.
Qui n'est pas tout à fait le premier, Edgar Morin, parce que le premier livre que vous avez écrit, c'est un livre sur l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne exsangue, détruite.
Oui.
Hein, c'était en 1946. Vous aviez quoi ? Vous aviez 25 ans, quelque chose comme ça ?
Oui. Oui, parce que comme donc j'étais d'abord à l'état-major de la première armée, puis ensuite au gouvernement militaire, où j'ai exercé des fonctions de propagande, j'avais la possibilité non seulement de lire tous les rapports des services d'information américains, anglais sur leur zone, mais de voyager moi-même dans les différentes zones, notamment à Berlin. Et dans le fond, ce que je voyais de cette Allemagne anéantie, c'est-à-dire pas seulement où les villes étaient détruites, mais il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de tête, elle était décapitée en quelque sorte, où les esprits étaient complètement hagards. Et donc, quand j'allais voir mes amis, notamment mon ami Robert Antelme, qui avait créé une petite maison d'édition, il m'a dit, mais fais un livre là-dessus. Et ça m'a poussé, effectivement, à faire mon premier livre, c'est-à-dire qui est à la fois un reportage sociologique, historique, sur l'Allemagne de cette époque, qui est à la fois le premier livre à l'époque pour ne pas considérer que les Allemands étaient des boches, c'est-à-dire un peuple de salauds et de là, mais que c'était avant tout un peuple qui a été aliéné et dupé par Hitler. Donc, si vous voulez, c'est le premier livre qui n'était pas anti-allemand, mais qui restait fondamentalement ce que j'étais, anti-nazi. Et ce livre a eu un assez bon accueil, et j'ai eu le bonheur d'avoir la préface d'un homme que j'admirais, qui est le philosophe Bernard Grüthuysen, lui-même né à Berlin, et qui était un des grands, je dirais, gourous de l'ANRF de Gallimard, d'André Malraux, d'André Gide,
donc
etc.
Donc un homme de poids.
Et cet homme, donc, m'avait fait un peu projet.
Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée en 1951, enfin même avant, de travailler sur ce thème de l'homme et la mort dans l'histoire ? C'est le titre complet.
C'est parce que, après, mon livre sur l'Allemagne, aussi bien la marque de la mort de ma mère, la présence encore de la disparition et de la mort de beaucoup de mes camarades ou de certains membres de ma famille, que tout ceci m'incite à m'interroger sur l'attitude humaine à l'égard de la mort, depuis la préhistoire, jusque dans les diverses civilisations, les religions, comment l'enfant découvre la mort, d'étudier les différentes psychanalyses pour étudier les réactions de l'homme à la mort, la biologie de la mort. Et ça a été la première façon pour moi de faire un travail que j'appelle complexe, c'est-à-dire qui relie des connaissances qui étaient totalement compartimentées, séparées les unes des autres. Et vraiment, c'est là où j'ai fait une nouvelle naissance du point de vue intellectuel.
C'est là que l'homme de la pensée complexe est né, en quelque sorte, Edgar Morin.
Voilà, sans le mot.
Sans le mot, bien entendu. Dans votre livre, on peut piocher beaucoup de choses en fonction de ses centres d'intérêt. Nous, dans Idées, on aime bien les idées, justement, et c'est notre fil conducteur dans cet entretien. Je voudrais qu'on dise un mot de la revue que vous avez lancée en 1956, qui avait fait du bruit à l'époque, qui s'appelait Argument,
oui,
et qu'on présente aujourd'hui comme la revue qui a fait en quelque sorte naître ce qu'on appelle la nouvelle gauche. C'est exact ?
Ça fait partiellement, mais ce que je veux dire, c'était que ce fut une... Il faut penser aussi au contexte des années, qui sont des années explosives. Parce que voilà qu'en 1954, commence la guerre d'Algérie.
Et vous allez voilà, débuter.
Voilà qu'en 1956, il y a le rapport Khrouchtchev.
Oui.
Voilà qu'il y a une révolte en Pologne qui aboutit à un changement de direction. Voilà qu'il y a une révolution en Hongrie qui va être réprimée sauvagement en 1957. Voilà qu'il y a à Suez une guerre israélo-égyptienne où les anglo-français interviennent. Et voilà qu'un putsch d'Alger fait venir le général de Gaulle au pouvoir. Donc, en l'année, disons, 56, où ça commence, nous faisons avec quelques-uns une revue pour réfléchir où en est-on. Et bien entendu, cette réflexion est enrichie par ces événements qui remettent tout en question, parce que le putsch d'Alger remet en question la possibilité de la démocratie, la révolution hongroise met totalement en question la validité du communisme
s'il soviétique. En était besoin.
Bien sûr. La Pologne, l'insurrection nous donne des espoirs, enfin bref. Et Argument est une revue où on a essayé de confronter différents points de vue sur les grands problèmes qui ont surgi. Et du coup, s'est mis à vouloir mettre en problème tout, c'est-à-dire le problème de la cosmologie, parce qu'il y a des grands progrès de la connaissance de l'univers à ce moment-là. On a mis l'amour en question, ne serait-ce que parce que dans notre comité d'arguments, que l'on faisait toujours au cours d'un repas joyeux, etc., mais les couples se disloquaient et les problèmes de l'amour se posaient pour chacun d'entre nous. Donc c'est une revue qui problématisait les choses, qui mettait en question. Et d'ailleurs, c'est au cours de cette revue que j'ai acquis un supplément de culture. J'ai connu l'école de Francfort allemande, c'est-à-dire Marcuse, Adorno, etc. Heidegger, le deuxième Heidegger que j'ai connu, et d'ailleurs j'ai emprunté à Heidegger l'idée de ère planétaire. J'ai compris qu'on était entré dans l'ère planétaire avant même la mondialisation. Donc, si vous voulez, ça a été très nourrissant, cette revue d'arguments, qui, je crois, reste un événement historique original.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, dans votre œuvre abondante, Edgar Morin, il y a quand même des pierres d'angle qui font votre postérité, déjà. Il y a cette notion de méthode, la méthode, un livre en 6 volumes qui analyse sous tous ses angles votre manière d'appréhender ce que l'on appelle la pensée complexe. Est-ce qu'on peut la définir ? Est-ce que vous pouvez la définir, cette notion de pensée complexe ? Qui est ce que vous nous avez apporté de peut-être alors, plus important dans votre...
C'est assez difficile, mais enfin, j'essaierai de le faire simplement. Tout d'abord, si vous voulez, le mot de complexité est un défi à la connaissance. C'est-à-dire, quand vous dites « c'est très complexe », ça veut dire « je ne suis pas capable de décrire ni d'expliquer ». Et c'est une façon de fuir la réalité. Alors moi, j'ai dit « la pensée complexe, c'est relever le défi ». Alors, prenez un phénomène comme la mondialisation. C'est un processus qui est évidemment économique, qui est politique, qui est sociologique, qui est démographique, qui est religieux, qui touche tout. Mais les gens n'en ont que des connaissances séparées et n'ont pas la capacité de le relier. Alors, la recherche d'une méthode, c'est quels sont les principes qui permettent de relier les connaissances séparées. C'est-à-dire, par exemple, si vous traitez un événement, par exemple le 11 septembre, cette attaque soudaine des tours de Manhattan, il faut contextualiser, sinon vous ne comprenez rien. Tout événement nouveau, inattendu. Alors, la complexité, c'est toujours, toujours contextualiser. Même une phrase, vous avez besoin de la mettre dans le discours, sinon vous la déformez. Alors, le deuxième impératif, c'est trouver les moyens de relier. Et parmi ces moyens, il y a 2 choses paradoxales. La première, c'est que quand on voit qu'il y a des parties dans un tout, on pense que ça suffit. Mais dans les phénomènes complexes, non seulement une partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Par exemple, la totalité de mon patrimoine génétique, elle se trouve dans chacune des cellules de mon corps, y compris celle de ma peau. Bien entendu, une partie se trouve exprimée pour ma peau, mais j'ai le tout. Moi, en tant que membre de la société, non seulement je suis une partie dans ce tout, mais son langage est en moi, sa culture est en moi, ses règles, ses mœurs sont en moi, c'est-à-dire que le tout est dans la partie. Ça, c'est un principe fondamental pour tout ce qui est... La deuxième... C'est, disons, cette idée de boucle récursive. Et je vais vous donner un exemple simple. Vous avez, par exemple, que tout le monde connaît, un appartement, une pièce chauffée par le chauffage. Vous avez un thermostat. Alors, dès que la température de la pièce atteint le niveau voulu, le thermostat déclenche l'arrêt. Autrement dit, la cause donne l'effet d'arrêt, mais cet effet devient la cause de l'arrêt du thermostat. Vous avez non pas une façon linéaire de penser, mais une façon en boucle. Alors, cette façon est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'avec ce système de régulation en boucle, vous créez l'autonomie thermique de la pièce dans un monde froid et vous créez cette chose qui est l'autonomie. Et si vous voulez généraliser, nous sommes des êtres vivants autonomes. Mais cette autonomie elle-même est totalement dépendante de l'énergie pour réalimenter le fonctionnement de notre corps, donc de nous nourrir. Et ce besoin d'énergie est aussi un besoin d'information pour pouvoir effectivement connaître les éléments, les moments, la nourriture. Bon. Donc, si vous voulez... La notion d'être autonome elle-même comporte des dépendances. C'est-à-dire, ça semble paradoxal et c'est une façon de considérer la réalité avec ses contradictions apparentes que sont les paradoxes. Voilà, si vous voulez, 10 façons de penser qui sont différentes de celles que on nous enseigne et qui ont une vision plus élargie, plus ample de la réalité.
Ce qui implique, Edgar Morin, qu'on fasse appel à toutes les sciences. Et vous avez la particularité d'avoir été un des premiers à vous intéresser, vous, le sociologue, l'anthropologue, le philosophe, aux sciences exactes.
Bien sûr. Et je dirais aussi bien aux sciences biologiques, puisque nous-mêmes, nous sommes les produits d'une évolution biologique que nous pouvons connaître maintenant, et je dirais même aux sciences physiques et cosmiques, parce que nous sommes faits de molécules qui sont faites d'atomes, qui sont faits de particules, qui sont nées au début de l'univers. Autrement dit, là aussi, le tout est dans la partie, c'est-à-dire la totalité de l'univers est en l'intérieur de chacun d'entre nous dans sa singularité. Et donc, ça vous permet mieux de comprendre ce dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est l'écologie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous.
Alors, j'y venais, Edgar Morin, vous avez été un des premiers à réfléchir à cette question d'écologie. Tout comme vous avez été un des premiers à vous intéresser au féminisme. Vous avez même écrit là-dessus dans les années 70.
Oui, alors donc, pour l'écologie, c'est à l'occasion de ce séjour en Californie que je connaissais des jeunes biologistes et qu'ils m'ont fait connaître aussi bien le rapport Meadows, qui est le premier rapport en 70
sur l'état
qui
de la planète,
que la Terre est menacée, et en même temps un article d'Ehrlich, La mort de l'océan, qui était peut-être prématuré, mais qui aujourd'hui est d'une actualité terrible, parce qu'effectivement l'océan est en train de crever, du moins tout ce qu'il y a de vie. Alors ça, j'ai porté cette conscience écologique depuis cette époque, prêchant dans le désert très longtemps. Deuxièmement, effectivement, la question de la femme. Quand j'ai été très frappé qu'après mai 68, qui pourtant n'avait absolument rien de féministe en lui-même, mais de voir que la presse féminine commençait à changer. Et c'est pour ça que j'ai fait faire une enquête par mon équipe que j'avais à l'époque, qui s'est appelée Néo-féminisme, Nouvelle féminité. C'est parce qu'à travers cette presse, qui avant mai 68 disait aux femmes, voilà les recettes du bonheur, vous soyez votre petit mari, soyez belle, soyez séduisante, qui était euphorique. À partir de mai 68, cette presse féminine devient problématique. Elle dit aux femmes, bien sûr, vous vieillissez, les enfants vont partir, le mari vous est infidèle, soyez forte. C'est-à-dire que cette presse féminine reflète une nouvelle façon, beaucoup plus vraie, de regarder le destin féminin. Et que ça coïncide avec ce mouvement des Women's Lib de l'époque, qui est différent du beauvoirisme, où Simone de Beauvoir dit... La femme, c'est l'homme, et on est pareil. Alors que vous me dites, non, nous sommes tout à fait différentes, mais effectivement, nous avons les mêmes droits que vous. Et ce mouvement, aujourd'hui, s'est continué avec le MeToo et toutes ces choses-là.
Vous êtes aussi célèbre pour avoir étudié, et ça, c'est un phénomène contemporain aussi, Edgar Morin, le phénomène de la rumeur.
Oui.
Avec ce fameux livre dont on parle toujours, dès qu'il s'agit de rumeurs, de complotisme, oui. Cette rumeur d'Orléans qui remonte aux années 1969, cette sale rumeur qui disait que des commerçants juifs d'Orléans kidnappaient des femmes dans les cabines d'essayage de leurs magasins. Et vous avez démonté ce mécanisme de la rumeur.
Oui, parce que donc c'était vraiment très intriguant cette histoire. Et déjà sur place, en me renseignant auprès de la police, j'ai vu qu'il n'y avait aucune disparition. Donc c'était une vraie rumeur imaginaire. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi cette rumeur avait été si forte chez les jeunes filles, chez des femmes même aussi, moins chez les hommes. Et j'essaie de comprendre un peu, parce que on croyait que l'explication était dans l'antisémitisme officiel de certains partis ou de certains mouvements. Et moi j'ai montré que c'était beaucoup plus profond et plus intéressant, que c'était dans les profondeurs, si vous voulez, psychiques de l'inconscient, cette idée de l'inquiétante étrangeté du juif. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à Orléans, les vieux juifs qui parlent avec encore un accent yiddish, qui font de la friperie, ils n'étaient pas du tout visés. C'était ceux qui ressemblaient tout à fait aux autres Français, c'est-à-dire qui portaient en eux, de façon invisible, ce mystère inquiétant. Et dans le fond... Le fondement de la rumeur était l'inquiétante étrangeté et qui a permis de rassembler sur ce thème-là. Je rappelle pourquoi je dis l'inquiétante étrangeté, parce qu'il y a eu une autre rumeur plus tard sur les restaurants chinois. Et cette rumeur disait que les restaurants chinois donnaient du rat au lieu de canard. Et là aussi, c'est l'inquiétante étrangeté du chinois qui n'est pas comme nous et qui tout le temps... Et vous avez vu récemment, cette rumeur sur les Roms, où une panique est née chez des gens pensant que des Roms avaient volé leurs enfants. Là aussi, le Rom, c'est l'inquiétante étrangeté de celui qui n'est pas comme nous. Et ça montre qu'il faut se méfier, a priori, de toutes ces rumeurs, et surtout quand elles visent des gens qui ne sont pas exactement dans la norme commune.
On pourrait aussi parler de votre livre, votre travail avant-gardiste aussi, sur une commune du Finistère,
oui.
La métamorphose de Plozévette,
oui.
Où vous êtes avec d'autres chercheurs, vous avez passé un long moment à étudier la métamorphose de cette commune. Là aussi, on aimerait que d'autres travaux aujourd'hui se penchent sur ces communes, ces petites communes, plein de travaux d'avant-garde. Mais je voudrais qu'on dise un mot de penseurs célèbres que vous avez rencontré. Vous avez des admirations, mais vous avez aussi de solides inimitiés, Edgar Morin. Sartre, par exemple,
Écoutez, c'est un
homme que vous appréciez, en tout cas un intellectuel que vous appréciez modérément. Vous dites, il est consternant qu'il soit souvent cité comme un exemple intellectuel de lucidité politique.
Alors, moi, j'ai admiré le Sartre écrivain. Je me suis inspiré dans mon livre sur le cinéma de son livre L'Imaginaire, mais je pense qu'il a eu, dès qu'il est devenu si rapproché du communisme, qu'il a été nul. Et alors, dans le fond, c'est lui qui est devenu très hostile à moi, parce que il s'est trouvé que dans une conversation qui ne devait pas être du tout un interview avec un journaliste romain, qui m'a demandé « Que pensez-vous de Sartre ?», j'ai dit « Écrivain génial », philosophe moyen et politique nul. Or, il a très mal pris la chose, évidemment, et il y a eu cette rupture. Mais si vous voulez, j'ai pas eu d'inimitié, c'est lui qui a eu d'inimitié contre moi.
Alors, autre conflit avec un autre penseur célèbre aussi, qu'on cite souvent aujourd'hui, c'est Bourdieu. Vous dites de Bourdieu, esprit doué, très intelligent, très cultivé, aimant comme moi l'oxymore, mais trop unilatéral, dogmatique, sectaire, avide de reconnaissance, impitoyable pour ceux qui se trouvaient en travers de sa route. Vous avez eu un conflit avec lui. Hein.
Écoutez, les dernières phrases sont de Raymond Aron, qui a protégé Bourdieu dans sa jeunesse. Il a dit de Bourdieu, sûr de lui et dominateur, impitoyable pour ceux qui se mêlent. J'ai repris ces paroles de Raymond Aron, qu'il a très bien connu.
Et que vous avez très bien connu aussi, d'ailleurs.
Il a fait sur moi une tentative d'assassinat psychique qui ont à moitié réussi. Moi, de mon côté, je n'ai jamais polémiqué contre lui. Mais quand, dans mes souvenirs, je dois rappeler les gens qui ont joué un rôle dans ma vie, je rappelle ça, mais sans aucune acrimonie. Voilà.
Et vous avez également des admirations, Edgar Morin, notamment pour Castoriadis, par exemple, que vous avez très bien connu, et pour Claude Lefort. Hein, vous dites, voilà un des grands esprits du siècle qui, je l'espère, sera reconnu lorsque les baudruches se seront dégonflées.
Eh oui, mais parce que je pense qu'avec Castoriadis et Lefort, on a été des viands. On a été des...
Par rapport au marxisme, au totalitarisme.
Par rapport au marxisme, par rapport au structuralisme, par rapport aux idées dominantes. Et en même temps, je me sentais très proche de leur œuvre. Mais parmi mes admirations, je cite Pierre Naville, oui. Qui est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, qui a joué un rôle important dans ma vie, qui est un personnage extraordinaire, qui a été un des acteurs du surréalisme, qui l'a quitté pour se vouer après au trotskisme, et qui après a fait une œuvre au CNRS, c'est un homme... Et puis André Breton, que j'ai rencontré sur la fin de sa vie, mais que j'ai vraiment admiré, parce que cet homme avait acquis une sérénité qu'il n'avait pas dans sa jeunesse, tout en incarnant quelque chose que j'admire beaucoup, qui est de surréalisme.
Et vous rendez même hommage à votre professeur d'histoire de la Sorbonne, un certain Georges Lefebvre, grâce auquel vous dites « J'ai pris conscience que les conséquences de décisions pouvaient être contraires à leurs intentions. »
Exactement. Et oui, et c'est ce que je vois sans arrêt qui arrive aussi bien dans la grande histoire que dans les cas individuels. Et c'est pour ça qu'une des choses importantes que je dis, soyez conscients que toute décision que vous prenez est un pari, c'est-à-dire comporte des risques et des risques d'aller contre ses intentions. Et deuxièmement, dans ce cas-là, ayez une stratégie, c'est-à-dire essayez de contrôler votre action, parce que si elle va dans le mauvais sens, faites comme la NASA quand un missile ne prend pas le bon chemin, elle le détruit.
Et vous dites à propos des historiens qu'il faut bien comprendre qu'ils écrivent à un moment donné oui. de l'histoire, le moment de leur vie, et que toute leur analyse est conditionnée par cela.
Tout à fait, parce que Lefebvre m'a montré que les historiens de la Révolution, de la Restauration jusqu'à la Troisième République faisaient rétroagir sur la Révolution les préoccupations de leur époque. Et moi, j'ai continué jusqu'à François Furet, qui a fait une histoire post-stalinienne de la Révolution. Mais j'en ai tiré la leçon qu'il faut s'observer soi-même, observant les autres, qu'il faut toujours avoir le regard sur soi, et essayer de se contextualiser soi-même. C'est une leçon, je dirais, capitale pour la vie que j'ai eue grâce à Georges Lefebvre.
Edgar Morin, dans un de vos livres, c'est Autocritique, le livre dans lequel vous faites votre, la critique du Parti communiste, cette époque dont on parlait tout à l'heure, vous écrivez un moment « Quiconque écrit se croit soleil oui. ». Est-ce que vous croyez que les intellectuels d'aujourd'hui, ceux qui étudient la société, les sociétés, prennent en compte vos travaux? Est-ce que le soleil brille encore votre soleil brille encore pour eux, en quelque sorte?
Bien, non. Non, justement, parce que eux-mêmes, ils ne pratiquent pas l'autoréflexion et l'autocritique pour s'auto-contextualiser dans la société. Moi, c'est une chose qui me semble évidente. Parce que, si vous voulez, la mission de l'intellectuel, c'est quoi? C'est de poser les problèmes fondamentaux de l'homme et de son époque. C'est ce que fait par Camus dans L'homme révolté, ou même Sartre dans l'existentialisme. Voilà, l'intellectuel doit essayer de comprendre son époque. Or, aujourd'hui, pour comprendre son époque, il faut un minimum de sérieux. Beaucoup d'intellectuels ont fait faillite dans le culte de l'Union soviétique, qui a été très durable jusqu'à l'effondrement du système, ou dans le culte maoïste. Moi, heureusement, c'est l'autocritique que j'ai pu faire qui m'a empêché de sombrer dans tous ces fanatismes et dans toutes ces illusions. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut bien sûr essayer de penser son monde, d'être lucide et d'apporter un témoignage important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où règnent les spécialistes, et les spécialistes ne connaissent toujours qu'un aspect particulier de la réalité, alors que seul celui qui pose les problèmes globaux peut les penser bien, à condition de ne pas trop se tromper et de voir les relations entre le tout et les parties. Donc, à mon avis, les intellectuels ont fait faillite pour la plupart dans leur mission.
Terminons cette mission avec l'époque actuelle, où la morosité est là, les inquiétudes sont là, environnement, économie, société, etc. Vous qui avez traversé le 98 ans, j'allais dire 98 ans avec vous, nous contemple, Edgar Morin, est-ce qu'on a des raisons d'être plus inquiet, par exemple aujourd'hui, qu'on ne pouvait l'être en 1940?
Peut-être aussi inquiet. Peut-être pas 1940, parce que 40, c'est le désastre s'accomplit. Donc, je ne pense pas que c'est on nous en sommes là. Mais que l'on pouvait être dans les années qui ont précédé la guerre. Pas du tout pour les mêmes raisons. Pas du tout, parce qu'à l'époque, l'inquiétude venait avant tout d'une puissance hégémonique avec une théorie raciale qui voulait dominer toute l'Europe, qui avait réussi à le faire, d'ailleurs, jusqu'en fin 41. Aujourd'hui, le péril, il vient d'ailleurs, il vient d'abord des dégradations de la biosphère, de nos pollutions urbaines, de la dégradation des sols pour la culture industrielle, le réchauffement climatique, enfin, tout cet ensemble. Elle vient du fait d'une économie mondialisée qui est instable et dangereuse et qui produit des inégalités croissantes. Elle vient d'un monde en convulsion. C'est-à-dire que l'unification techno-économique qui a commencé en 90-91 et qui s'est poursuivie n'a pas provoqué une unification politique, culturelle et morale. Au contraire, les cultures se referment sur elles-mêmes par inquiétude. C'est pas seulement que, comme dans certains pays musulmans, l'Iran, etc., mais vous voyez les tendances en Hongrie, en Russie, et même des forts courants en France, pour se refermer sur nous-mêmes et pour, dans le fond, craindre l'étranger, craindre le monde, au moment où nous avons besoin d'une conscience de la communauté mondiale. Et, si vous voulez, les gens étaient, à l'époque que j'ai vécu adolescent, à cause de la crise de la démocratie de l'époque, ils étaient anxieux, ils étaient inquiets, et ils trouvaient parfois des boucs émissaires.
Oui, parce que vous avez connu, par exemple, vous l'expliquez très bien dans ce livre de souvenirs, Edgar Morin, vous dites, en 1934, tout d'un coup, dans ma classe, est arrivée l'histoire et la politique. Voilà. 1934, c'est l'année des ligues, c'est l'année des manifestations contre le Parlement, et une année extrêmement
difficile. Donc, c'était une époque pleine. Alors, nous avons d'autres angoisses, et ces angoisses, au lieu de nous ouvrir sur notre condition planétaire désormais, nous fait refermer sur notre édit, sur notre religion, sur notre nationalité, au lieu, tout en assumant notre patrie, tout en assumant nos croyances, nous inscrire dans le dessein de l'humanité qui aujourd'hui nous commande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le sort de l'humanité, bien que pour moi, j'aurai très peu de temps pour voir la suite et pour que c'est passionnant, mais c'est absolument quelque chose de formidable, c'est décisif, c'est une mutation, nous ne savons pas où nous allons, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne conscience de ceci comme chose centrale et qu'on ne s'intéresse pas à des phénomènes secondaires en les considérant comme principaux.
Mais vous comprenez cet état d'esprit des Français aujourd'hui qui montre, une étude de l'Institut Montaigne récente le confirme, que les Français sont très pessimistes et que pire peut-être que ça, les Français haïssent presque les Français. C'est-à-dire que c'est un peu tous contre tous. Vous comprenez cette morosité, vous qui avez le recul du temps, recul aussi de l'intellectuel
Mais vous savez, c'est aussi les angoisses et les incertitudes qui, en fermentant, déclenchent ces haines, déclenchent ces sentiments. C'est celles qui ont déclenché le mouvement des Gilets jaunes, entre autres. Alors, il y a des phénomènes que j'estime très positifs. C'est un bouillonnement d'associations solidaires qui se font un peu partout, qui prennent comme valeur, à ce moment-là, disons, le renouveau de notre civilisation en rejetant ces traits les plus négatifs qui sont l'égocentrisme, la compartimentation, la toute-puissance du profit et de l'argent et de l'économie, et pour le développement des autonomies individuelles au sein des communautés et des collectivités. Donc, si vous voulez, il y a fermentation, beaucoup d'aspirations qui sont très positives, mais malheureusement, elles sont dispersées. Et la tendance dominante au niveau de la pensée politico-économique, c'est quoi ? C'est le calcul. Tout est calculable, alors que nous ne sommes pas des objets calculables seulement. Nous sommes aussi autre chose.
Merci, Edgar Morin.
Merci à vous.
Edgar Morin, vous l'avez constaté, toujours aussi désireux de comprendre son époque. Il vient donc d'écrire « Les souvenirs viennent à ma rencontre », un livre publié chez Fayard. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr, sur l'application RFI 100% Radio et à la page ID de Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante.
id@rfi.fr.
Nous vous retrouvons samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.